voici au rendez-vous du fil rouge qui court le long de ses rivages. Depuis que la lumière de la Grèce au 5e siècle a fait éclater l'invention de la démocratie.
La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie.
Si on n'étend pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs, c'est-à-dire des images.
Pierre a une anecdote historique croustillante à nous raconter,
exactement,
il me semble.
Exactement, eh oui. Bonjour à vous, bonjour mes chers disciples de notre école de l'histoire par la connerie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Russie médiévale et de la difficile... Renaissance, hein, je me suis trompé en écrivant mon script, et de la difficile tâche de reconnaître la véritable identité des personnes. Parce que oui, je ne vais pas vous parler d'un simple tsar, ou du moins d'un prince héritier russe. Non, je ne vais pas juste vous parler de Dimitri, je vais vous parler d'eux, et attention, ce sont leurs noms officiels, de faux Dimitri, second faux Dimitri, troisième faux Dimitri et quatrième faux Dimitri. Mais qui peut bien être ce Dimitri que tout le monde souhaite imiter? Eh bien, il s'agit de l'héritier légitime d'Ivan IV, aussi appelé Ivan le Terrible. Et pour cette petite histoire bien amusante, il faut se plonger dans la Russie du XVIIe siècle, en 1605 pour être précis. Le tsar Boris Godounov, aristocrate parvenu au pouvoir grâce à un manque de descendance légitime, parvient à mettre son fils au pouvoir sous le nom de Fédor II. Tous les mécontentements réprimés sous Godounov se manifestent donc sous Fédor II qui se retrouve très vite en position de faiblesse. Il demande de l'aide à Basmanov, un aristocrate aussi, qui fait mine d'aider le tsar tout en soutenant un complot contre lui. Quelques jours plus tard, un homme venu de l'Ouest dit être Dimitri, héritier légitime de la couronne. Les Cosaques révoltés se rallient à lui, le peuple affamé aussi, et comble du comble, Basmanov aussi. Fédor se réfugie à Moscou où il est assassiné à l'âge de 16 ans, après 1 mois et 19 jours de règne.
C'est ballot.
Eh oui, le nouveau tsar, Dimitri II, pourtant, ne dure pas longtemps non plus. Bien que l'aristocratie russe n'est pas certaine qu'il soit véritablement Dimitri, elle le soutient pendant un certain temps. Sauf qu'il fait montre de coutumes catholiques, assez compliqué quand même dans un pays orthodoxe, et parle plus le polonais que le russe. Il finit assassiné au bout de 10 mois de règne après une opposition de l'aristocratie et du clergé qui prend très mal ses tentatives de convertir la Russie au catholicisme. Il est brûlé et ses cendres sont tirées au canon en direction de la Pologne. Ils ont tiré ses cendres au canon en direction de la Pologne. Et oui, c'est donc un joli pied de nez à son seul vrai soutien, le roi de Pologne, le grand ennemi des Russes. Mais ce n'est pas tout.
Ouais, vas-y.
En 1607, un nouveau personnage venu de Pologne se fait passer pour Dimitri, ayant réussi à échapper à son assassinat de 1605. Wow. Il bénéficie même du soutien de la femme du premier Dimitri, qui reconnaît le second pour garder la face. Malheureusement, pour le second Dimitri, il n'a pas une armée assez puissante pour prendre Moscou et il s'établit tout simplement à quelques kilomètres de là, dans la ville de Tushino. Les aristocrates russes se tournent à nouveau en partie vers lui afin d'améliorer leur place, mais rapidement la Pologne vient s'opposer au nouveau Dimitri II, qui se fait renverser rapidement et assassiner. Mais ce n'est toujours pas fini. En 1611, un nouveau Dimitri apparaît et commence à se faire connaître dans le pays, plus comme chef de guerre que comme héritier légitime. Il fait aussi croire qu'il a survécu à son assassinat de 1607. Ça ferait donc, il aura survécu à 3 assassinats.
Mais quel homme !
Voilà. Mais cette fois-ci, il n'entre pas tout de suite en conflit avec la Pologne ou la noblesse russe, mais simplement avec... un quatrième Dimitri, voilà, et oui, un quatrième Dimitri apparaît au sud du pays, mais ce dernier disparaît vite sans laisser de traces. Et ce sont les Cosaques moscovites qui vont chasser le troisième Dimitri après en avoir eu ras-le-bol de sa violence et ses impôts massifs. Voilà l'histoire donc du petit Dimitri, disparu à l'âge de 8 ans avec sa mère dans un monastère après le renversement de son frère par Boris Godounov. Vous vous souvenez, le méchant aristocrate qui a pris le contrôle tout à l'heure. En effet, Dimitri étant le fils d'Ivan le Terrible par son 6e mariage, il est légitime de sang mais pas de mariage, l'église orthodoxe russe n'en reconnaissant que 3. Godounov s'est donc débarrassé du dernier fils d'Ivan VI pour prendre le pouvoir et vous connaissez la suite, les nombreuses vies du petit Dimitri. Maintenant, place à l'histoire après la connerie, et je terminerai avec ça. Ce que l'arrivée au pouvoir des faux Dimitri nous montre, c'est un véritable attachement au symbole de la part des populations quand confrontées à des crises majeures. Si les Cosaques et le peuple se sont ralliés à ces imposteurs soutenus par la Pologne, c'est par simple conflit d'intérêts ou par simple volonté de changer les choses. Même sans forcément croire que les imposteurs étaient réellement Dimitri, le fait de prendre son nom incarne à nouveau justement le symbole, le pouvoir légitime qui souvent n'a rien à voir avec la personne même, la personne qui le possède. Je vous invite à vous pencher sur un ancien transhistorien concernant d'ailleurs le corps du roi. Exactement.
Autopromotion.
Le rôle de la Pologne particulièrement évident montre alors une volonté de nuire de la part de l'État rival, quelle que soit la personne employée. Notamment en ce qui concerne par exemple la réforme du Parlement réduisant le pouvoir de l'aristocratie mise en place par le premier faux Dimitri. Et ce qui a causé sa perte, c'est justement le temps pris à convertir la Russie au catholicisme, tâche particulièrement ardue, voire impossible. Le pouvoir des imposteurs finit toujours confronté à une réalité politique qu'ils ignorent, qu'ils mettent de côté. Je trouve que ces anecdotes montrent bien qu'être roi n'est pas qu'une question de faire ce que l'on veut et de vivre dans le luxe total. Il s'agit d'un rapport de force difficile à gérer entre les différentes factions. La fin rapide de Fédor II le montre aussi bien que celle des quatre Dimitri. Et c'est ainsi que se termine notre leçon. J'espère vous avoir donné un peu plus goût à l'histoire et en même temps un aperçu du potentiel de conneries de l'espèce humaine.
Merci Pierre.